Audiolib présente Vers Mars de Marie Robinette Kowal. Traduit de l'anglais par Patrick Imbert. Lu par Clémentine Domtaille. Pour ma nièce, Laura Olafsson, qui y va franchement. Souvent, nous avons en nous les remèdes que nous attendons du ciel. Les destins d'en haut nous laissent une libre carrière. Ils ne retardent nos projets que lorsque nous sommes, nous-mêmes, inertes. Quelle est la puissance qui élève mon amour si haut et me fait apercevoir ce dont ma vue ne peut se rassasier? Souvent, les êtres les plus éloignés par la fortune, la nature les rapproche pour les réunir dans le baiser d'une sympathie native. Les entreprises extraordinaires sont impossibles à ceux qui en mesurent les difficultés d'après le sens commun et qui s'imaginent que ce qui n'a pas été ne saurait être. Quelle est celle qui, après avoir fait tous ses efforts pour prouver son mérite, a échoué dans ses amours? La maladie du roi. Mon projet peut tromper mon espoir, mais ma résolution est fixée. Elle ne m'abandonnera pas. William Shakespeare, tout est bien qui finit bien. Chapitre 1. L'IAC, International Aerospace Coalition, s'alarme des coupures budgétaires. Par John W. Finney, correspondant The National Times. 16 août 1961. Horace Clements, directeur de la Coalition Aérospatiale Internationale, a prévenu aujourd'hui les Nations Unies que la moindre restriction du budget minimal du programme spatial interdirait toute mission habitée vers Mars pour au moins 10 ans. Il a également ajouté qu'un report du programme Mars augmenterait le coût final de la première expédition martienne, désormais estimé à 20 milliards de dollars. Après la baisse budgétaire de 600 millions votée par le Congrès américain, il a déclaré que l'IAC avait déjà dû sacrifier l'assurance du programme pour se prémunir des problèmes techniques imprévisibles ou insolubles, ce qui retardera les vols d'essais cruciaux du vaisseau spatial Cygnus. Où étiez-vous quand la sonde Friendship a atterri sur Mars? Vous vous souvenez? Moi, je m'apprêtais à quitter la Lune. Je terminais une mission de 3 mois à la base Artemis, notre minuscule colonie, où j'étais chargée d'accompagner des géologues sur différents sites d'études. Nous avions tous le titre d'astronaute, mais seule une poignée d'entre nous était pilote, comprendre, conducteur de bus de luxe. Le reste des 200 citoyens allait et venait en fonction de leur expertise. Seule une cinquantaine étaient résidents permanents. Ils habitaient les bunkers souterrains qui nous servaient de foyer. Tout comme la moitié de la population de la base, je sautillais dans la faible gravité lunaire le long d'un tube souterrain baptisé Baker Street, vers Midtown. En l'absence d'atmosphère pour nous protéger du rayonnement cosmique qui bombardait la surface lunaire, nous avions creusé le régolithe pour y enterrer des conduites. Esthétiquement, l'extérieur de la base évoquait un château de sable à moitié effondré. L'intérieur était presque entièrement tapissé de caoutchouc lisse, avec parfois un puits de lumière, des supports en aluminium et des sas pressurisés. L'une des portes s'est ouverte en sifflant. Nicole l'a franchie en tenant la poignée, puis l'a refermée soigneusement derrière elle. J'ai écarté les jambes pour briser mon élan au moment où je me réceptionnais de mon dernier saut. On l'avait affectée ici par le dernier vol en provenance de la Terre, et c'était sacrément bon de la revoir. « Bonjour.
Je croyais que tu rentrais. »
Comme moi, Nicole portait une combinaison pressurisée légère. Elle avait accroché son casque en caoutchouc à sa hanche, comme les masques à gaz pendant la guerre. Ce n'était pas grand-chose, mais si l'un des tubes se perçait, ça nous laissait 10 minutes d'oxygène pour nous mettre à l'abri. « Je rentre, oui, mais pas question de manquer l'atterrissage de la sonde martienne. » J'assumais alors le poste de copilote de la petite navette qui effectuait la liaison depuis la plateforme orbitale Luneta. C'était à peine mieux qu'un bus spatial, mais les plus gros vaisseaux de classe Solaris assignés au trajet Luneta-Terre étaient